Come. C'est l'interrogation, vous devriez l'avoir. Hein. On l'a distribué. Si vous n'en avez pas, j'ai ici quelques feuilles. S'il vous faut encore une feuille, dites-le moi. Très bien. On peut mettre le nom de Warren aussi. Intervenant hors micro qui dit qu'il va compléter trois interrogations pour voir s'il peut gagner le prix. Très bien. Vous pouvez créer vos propres règles. Il y a 6 bonnes réponses par question, 6 points par bonne réponse, 6.5 points par bonne question. Il y a 8 questions et demie. Nous avons quelques heures pour répondre à cette interrogation. Donc, 1 point par réponse, 1 réponse par question, maximum de 10 points. Et nous allons démarrer maintenant. Première question. Il y a une réponse par question. C'est... Vous ne pouvez pas mettre ABCD. Il y a juste une réponse à chaque question. Vous n'aurez pas de points. Si vous voulez, vous pouvez mettre plusieurs réponses, mais à ce moment-là, vous aurez 0 point. Première question. Quel est le CCTLD qui a le plus récemment signé DNSSEC? Donc, Guinée-Bissau, les îles Hollande, Bhutan ou l'Italie? Donc, quel est le CCTLD qui a le plus récemment signé DNSSEC? Une seule réponse. Deuxième question. En quelle année Porto Rico et Brésil ont, pour la première fois, signé leur TLD? A, 2007, 2009, 2011, 2013. Voilà les 4 possibilités. Troisième question. Conformément aux statistiques de APNIC, quel est le pays qui a le déploiement le plus important par habitant? Quel est le pays qui a les taux les plus importants de déploiement de DNSSEC? Voilà, la Suède, Kiribati, les Pays-Bas ou le Groenland? Très bien, j'avais mal lu, excusez-moi. Quatrième question. Conformément au RFC 4509, comment les résolveurs validants gèrent la présence de SHA-1 et SHA-256 dans un ensemble de ressources DS, d'enregistrement de ressources DS? Alors, mise en œuvre doit ignorer les enregistrements DES ou les enregistrements DES SHA-1 ou SHA-256 ou doivent être compatibles avec les deux types d'enregistrements DES. Voilà les 4 possibilités. Nous en avions parlé à un moment donné par rapport à ça. Cinquième question. En quelle année a été tenue la première cérémonie de signature KSK pour la Stone Racine à Culpeper, Virginie, États-Unis? On ne sait pas. 2004, 2007, 2010, 2012. Question 6. Que représente le H dans le paquet logiciel Soft HSM? Homogénéisé, heuristique, hardware, durci, point C, harden en anglais. Commentaire hors micro. Question numéro 7. Quel est le TLD qui a le plus grand nombre d'enregistrements DS enregistrés depuis la signature de la racine? Point SE, point NL, point EBR, point US, point BANK. Et la source, ce sont les diapos de Roy. On a pris ces informations d'une diapo de DNS ORC. Question 8. Lesquels parmi ces termes liés au DNSSEC n'est pas un acronyme? DANE, ENUM, DKIM, DNS. Jake m'a aidé avec cette interrogation et il a l'habitude de ça, donc c'est une question intéressante. Une seule réponse possible. Question numéro 9. Quel pourcentage de tous les TLD de la racine sont signés? 97% 100%, 84%, 94% 96%, 90% 84%, 86% 89%, 81% 85%. Dernière question. Lequel des TLD suivants ne se trouve pas dans la zone racine? Point triple A, point ABC, point ACO, point AEG et point ANT. Je n'ai pas eu besoin de faire défiler plusieurs pages pour trouver ces exemples. Hein. Très bien. Voilà, c'est le moment de corriger. S'il vous plaît, mettez votre nom sur la feuille. Passez la feuille à votre voisin. Nous allons corriger. Et j'ai toujours raison. Je suis la source qui fait autorité. Première question. Butan, 2 décembre 2017. C'est le plus récent. C'est c'était le dessiné. Donc la réponse correcte, c'est C. Deuxième question. 2007, Porto Rico. Donc la réponse correcte, c'était la réponse A. J'espère ne pas m'être trompée. Quand est-ce que vous avez signé pour la première fois le TLD? C'est le moment où ils ont signé pour la première fois. Si nous voyons les statistiques, elles proviennent de VeriSign. Troisième question. Alors la réponse correcte, c'est .gl, Groenland. 76,88%. Question 4. Donc, pour cette question, ça vient de l'atelier d'ENESSEC. La réponse correcte, c'est B. Ce qui rend un roulement de la KSK non valide. Question numéro 5. La réponse correcte est la réponse C, 2010, pardon. L'idée, c'était de répondre correctement aux questions pour pouvoir avoir le billet pour manger. Mais bon, c'est plus le cas. Alors, pour la question 6, la réponse correcte, c'est la réponse D, matériel, c'est-à-dire hardware en anglais. La question numéro 7, le point US, c'est celui qui a le plus grand nombre d'enregistrements DS. C'est-à-dire, la réponse correcte, c'est la réponse D. La réponse est sur les diapos de Roy. Je vous assure qu'elle se trouve là. Donc, c'est la réponse correcte, c'est la réponse D. Vous pouvez envoyer un email à Roy, hein, si vous avez des doutes. J'ai toujours raison, je vous l'ai dit. C'est la quantité de ressources DNS, d'enregistrement DNS, DS, pardon, dans la racine. La question était la suivante. Quel est le TLD qui a le plus grand nombre d'enregistrements DS depuis que la racine a été signée? Alors, il y a deux KSK avec 4 DS de différents types par clé. Il faut savoir que celui qui pose les questions a toujours raison. Très bien, exactement. E-N-U-M, c'est comme ça qu'on dit, non? Dane, Inam, Kim, Dennis. Et la réponse correcte pour la question numéro 8, c'est Dennis. Question suivante. Pourcentage, c'est 90%, 84%. Et ensuite, question 10, la réponse correcte, c'est la dernière possibilité, point ANT. Très bien, nous corrigeons maintenant. Très bien. Donc, voilà qui ont eu 5 points ou plus. 6 ou plus. Une seule personne? 7? 8, 9. C'est tout. Alors, vous êtes le gagnant. Le grand gagnant. Très bien. Merci tout le monde. Russ Mundy au micro. Nous amusons toujours avec ce quiz, cette interrogation. Mais maintenant, nous allons devoir nous dépêcher un petit peu parce que le quiz était prévu pour avant le déjeuner. Maintenant, je vais passer la parole à Victor Duchovny qui va faire sa présentation. Allez-y, Victor. Vous avez un micro un peu. Vous pouvez vous lever et prendre le micro si vous voulez. Oui, très bien. Je vais le tenir, d'accord. Je m'appelle Victor Duchovny. Je travaille dans le domaine de la sécurité et de la messagerie électronique depuis un certain temps. J'ai écrit quelques RFC concernant la sécurité dans cet espace. Je vais vous parler à propos de, d'un côté, le contexte. Je vais donner un peu de contexte. Ensuite, je vais parler de Dane. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vais vous expliquer brièvement. Je vais vous parler de ce qu'il faut faire, même si vous ne mettez pas en place Dane, mais si vous avez une zone qui est signée DNSSEC, vous pouvez recevoir des emails des gens qui ont mis en place Dane. Et donc, nous allons voir ce qui peut se passer dans ce cas. Nous allons parler de comment mettre en place Dane de manière fiable. Parce que il y a des gens qui veulent le mettre en place, mais ne savent pas comment le faire de manière correcte. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment mettre en place cela. Et ensuite, nous allons parler d'une enquête que nous avons mis en place qui fait un suivi de l'adoption de Dane pour voir quelles ont été les difficultés, le cas échéant, lors de la mise en œuvre de ce type de solution. Ensuite, on a une annexe. J'ai beaucoup de matériel. Au cas où on n'aurait pas suffisamment de temps d'aborder toute cette question, il y a donc énormément de diapos. Et j'ai 50 et quelques diapos. Je sais que je ne vais pas pouvoir vous les présenter toutes. Donc, dans l'annexe, vous avez le reste de la documentation. Parlons donc de la sécurité des emails. Nous avons donc les expéditeurs qui peuvent utiliser l'authentification MSA, qui envoie donc un message à un destinataire à travers un serveur de messagerie. Et le destinataire peut lire ce message à travers un TLS, une authentification TLS pour savoir que l'expéditeur est le bon expéditeur. Donc, nous avons le MTA, c'est-à-dire le transfert de mail qui permet donc cet échange entre l'expéditeur et le destinataire. Nous avons donc une authentification avec un chiffrement complet. Et donc, je vais vous décrire en détail ce qui se passe dans cette deuxième étape entre l'expéditeur et le destinataire. C'est l'espace où j'ai mis qu'il y a un miracle qui se produit. Très bien. Que se passe-t-il entre les organisations quand on échange des emails? Nous avons quelque chose qui s'appelle Start TLS ou Opportunistic Start TLS. Ce sont des serveurs de messagerie où l'on veut déterminer si le destinataire est compatible avec un chiffrement des données qui sont dans l'email. Avec cette technologie, qui est très utile, elle permet de faire en sorte qu'aucune interférence puisse endommager ou ne pas permettre cette communication. Mais cette technologie est vulnérable à des attaques actives. Vous pouvez lire des documents qui montrent que cela arrive de temps en temps. Et la l'attaquant actif qui veut interférer peut détourner le BGP et donc retarder l'email pendant quelques heures, ou bien ils peuvent empoisonner le cache du DNS, ou bien ils peuvent également affecter le star TTLS et le expéditeur reçoit un message comme quoi le destinataire n'est pas capable de recevoir son email. Malgré tout cela, la solution StarTTLS a eu beaucoup de succès. Vous le voyez dans ce graphique. Vous voyez comment l'évolution de l'adoption de cette solution a progressé au cours des dernières années. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, il y avait 5-10% de taux d'adoption. Mais maintenant, à droite, vous voyez que 90% des emails qui passent par Gmail sont chiffrés à l'aide de StarTTLS. Il y a un lien au bas de la page sur lequel vous pouvez cliquer pour avoir plus d'informations. J'aimerais donc vous parler du SMTP et pour voir comment on peut résister aux attaques actives de type empoisonnement de cache, etc. Comment faire ? Nous sommes dans un écosystème où il y a beaucoup d'attaques qui sont opportunistes. Et c'est pour ça qu'il nous faut un signal qui nous dise que l'expéditeur est sécurisé. Et ce signal, doit être véhiculé à travers un mécanisme qui, dans ce cas, peut être DNSSEC. Un message à retenir, c'est que beaucoup de gens veulent dire que certains SMTP utilisent DNSSEC, mais ce n'est pas comme HTTP. Ce sont deux systèmes différents. Vous pouvez en savoir davantage si vous cliquez sur le lien, mais la première différence, c'est la direction. L'email peut déterminer quelle est la direction alors que HTTP ne le fait pas. Et il faut faire confiance au contenu du prochain enregistrement. Et l'autre point, c'est que, à mon avis au moins, le web PCA, l'authentification du certificat, sont trop nombreux pour pouvoir construire un système de vérification. Quand il y a une exception, avec HTTP, on peut cliquer dessus et vous pouvez dire, on peut... Je veux voir cette page quand même, alors qu'avec l'email, on peut pas dire je veux voir ce message quand même. Et donc, on doit faire confiance à ce système.
Alors, donc voilà que DEN arrive et DEN est tout à fait adapté au SMTP. Donc, DEN, c'est donc l'authentification basée sur le DNS des entités nommées. Traduit en français. Donc, dans le SMTP, la définition de la RFC que nous avons mise en place, eh bien, il est indiqué que l'on peut recevoir des mails de manière sécurisée en publiant un enregistrement dans le DNS, ou plutôt dans la zone signée par le DNSSEC. Donc, l'enregistrement que l'on publie commence par un chiffre de port, de port, le 25. Ensuite, il y a une étiquette de protocole, on utilise le TCP, et ensuite, il y a l'hôte qui est nommé, avec sécurité donc, et il y a des paramètres qui indiquent comment sécuriser le trafic. La présence de cet enregistrement TLSA pour les emails, tel qu'il est défini par la RFC, dit que je ferai absolument à chaque fois le start TLS. Sinon, ça veut dire qu'il y a une attaque ou une erreur opérationnelle dans ma zone. Par exemple, j'ai oublié d'activer StarTLS, même si j'avais promis de le faire. Donc, c'est important. Les signaux passent par le DNSSEC. Donc, en fait, c'est résistant au déclassement. Étant donné que le DNSSEC il y a un déni d'existence, le résolveur validant ne va pas identifier l'attaquant et il va voir un échec et il va passer à la suite. Donc, nous avons un contrat pour faire le Start TLS. Mais au-delà de ça, nous avons également un contrat non seulement pour faire le Start TLS, mais pour avoir également une chaîne de certificats d'authentification qui correspondent à ces enregistrements. Donc voilà à quoi le SHA 256, CUR, PubKey, SHA 256 correspond. DIN authentifie les contrôles de manière à ne pas avoir des CA externes chiffrés. Il y en a auxquels on fait confiance, d'autres non. Donc le service est autonome dans le DNS, à la fois pour la publication des enregistrements et pour l'authentification. Et il y a donc résistance au déclassement. Ensuite, j'avais promis que je parlerais un petit peu de ce qu'il faut faire pour faire fonctionner le DEN. Les domaines commencent à le mettre en place, Comcast. Je ne sais pas si le monsieur est toujours là. Oui, ils font toujours validation de DEN outbound. Donc, si vous recevez un email de Comcast, donc faites attention à ça. Ou alors web.d et ietf.org. Même chose, ils utilisent l'authentification DEN pour l'expédition. En tout cas, ils le font pour les emails qui arrivent. Alors, les expéditeurs DIN ne parleront pas à un hôte mixte lorsqu'il y a un échec. Le TLSA peut prouver que l'enregistrement n'existe pas. La non-existence n'est pas un échec. Un échec, c'est des données mauvaises, de mauvaises signatures, un problème par rapport au paquet DNS, ou des signatures qui ont expiré, etc. Ou alors, pas de réponse. Si on est dans cette situation, et surtout si c'est quelque chose qui se passe sur l'hôte MX, vous n'aurez pas d'email. Et cela ne va faire que continuer au cours des années à venir. Donc, sans enregistrement TLSA, si vous ne faites pas le DEN, si vous n'avez pas le DEN, assurez-vous que le déni d'existence est livré de manière fiable. Et DEN est le premier protocole pour lequel ceci est important. Il y a d'autres choses qui entrent en compte, qui s'appuient sur le DNSSEC pour protéger les enregistrements qui sont là, pour s'assurer que ce qui est là est protégé. Mais là, on parle de ce qui n'est pas là. Alors, ce qui n'est pas surprenant, c'est que en 2013, quand j'ai commencé à travailler sur le DEN, il y avait beaucoup de serveurs de noms qui ne fonctionnaient pas bien avec ça, parce qu'en fait, peu importait. Et maintenant que nous l'utilisons, la plupart des opérateurs utilisent le système. Mais il faut le savoir pour tester son propre système. Alors, la clé avec le DIN, c'est l'hygiène de votre DNSSEC. Donc, tout ce que vous avez à l'écran, EDNS 0, fragment IP, bonne réponse, nos data, etc., tout ceci doit fonctionner sur votre domaine. Donc, je ne vais pas tout lire dans toutes les diapositives. Ce qu'il faut retirer de tout ça, c'est de tester vos domaines pour vous assurer que tout fonctionne. Également, donc, la surveillance. Alors, autre chose, il y a un certain nombre de pare-feux de boîtiers intermédiaires. Il faut donc protéger vos serveurs de nom contre ce trafic hostile en bloquant les requêtes pour certains types d'enregistrements. Donc, si vous avez, par exemple, une requête MX, ça va, mais si, par exemple, TLSA, CA, de nouveaux types, eh bien, il faut bloquer ces requêtes. Eh bien, peut-être pas, en fait, parce que si vous bloquez ces requêtes, ça casse le DIN. Ça ne fonctionnera plus. Et puis, en plus, il y a le problème des délivrances de certificats d'autorité. Ou alors, peut-être que ça bloquera votre roulement de KSK. Donc, ne déployez pas de pare-feu qui bloque les requêtes de DNS par type d'enregistrement. C'est une mauvaise idée. Ça aurait jamais dû exister. Mais si vous avez un pare-feu de ce type, eh bien, ne le mettez jamais en route. Alors, je vous donne des exemples avec DIG de tests de requêtes que vous pouvez utiliser. Et donc, la réponse, c'est no data, NX domain. Donc, en principe, il ne devrait pas y avoir d'expiration. Alors, voilà la liste de contrôles DNSSEC. Je ne vais pas rentrer dans le détail là-dessus. J'ai mis différents points avec des points en plus sur l'hygiène du NSSEC 3. Ce n'est pas directement lié au DN, mais c'est quand même quelque chose qui est important que j'ai inclus dans le questionnaire. Donc, vous pouvez lire les liens et comprendre un petit peu ce qui se passe en matière d'hygiène DNSSEC. Alors, un petit diagramme avec DNS Viz, avec les envois de mails, donc techtrack.gov. À chaque fois, lorsqu'on a signé leur zone, il y avait toujours un numéro de série plus élevé après le SOA. Donc, le SOA ne valide pas et ça ne marche jamais. Donc, si vous écrivez un code, vous pouvez faire un inversement. Et en fait, je me rappelle qu'il y avait une différence d'un. Et si je change d'un seul point, eh bien, ça signait. Alors, attention, surtout pas. Donc, faites attention, parce que s'ils avaient en fait fait la surveillance, ils en seraient rendus compte. Alors, voilà, pour l'hygiène DNSSEC, donc, faites-le, même si vous n'utilisez pas le DNS. Alors, il y a d'autres diapositives avec des exemples de mauvaise hygiène DNSSEC. Vous verrez. Alors, adoption de DNS. Alors, imaginons que vous êtes très enthousiaste par rapport au DNS. Vous souhaitez absolument l'accepter, ou l'adopter, pardon. Alors, la première chose, c'est qu'il faut déjà avoir le DNSSEC. Il faut signer vos zones. Une fois que vous avez signé vos zones, et c'est là que ça se complique, la gestion du DNSSEC, en fait, c'est difficile. Vous verrez que le DN n'est pas compliqué. Je vais vous convaincre. Alors, ce qui est compliqué, et je vais vous montrer comment le faire correctement, c'est de coordonner vos enregistrements TLSA et votre chaîne de certificats. Parce que DN, à la base, nécessite que vous changiez, lorsque vous faites la rotation de voter, sur deux endroits. Premièrement, le déploiement de vos certificats et de vos clés privées, et également mise à jour de vos enregistrements TLSA. Et ces changements, ça peut paraître compliqué, mais vous allez voir, ça va être simple, je vais vous expliquer. Alors, première chose, on va parler du DN de sortie. Donc, imaginez que vous n'êtes pas prêt à signer votre zone, que vous n'avez pas bien compris de manière opérationnelle, vous n'avez pas convaincu votre équipe. Mais vous pouvez quand même activer le DN pour les emails que vous envoyez. Pour cela, il vous faut juste un résolveur validant le DNSSEC. En principe, c'est celui qui se trouve sur les serveurs de mail, parce que ce sont des machines qui fonctionnent bien, ce ne sont pas des téléphones ni des ordinateurs portables, donc ils peuvent avoir un résolveur local qui améliore la performance et qui vous permet d'exploiter ceci pour la validation. Et beaucoup des MTA qui mettent en place le DN ne font pas la validation du DN par eux-mêmes. Ils s'appuient simplement sur les résolveurs locaux pour leur dire si oui ou non les enregistrements sont validés. Donc, il faut qu'il y ait un chemin sécurisé. Et donc, c'est beaucoup plus simple si vous faites ça sur la même machine. Donc, les MTA, vous pouvez utiliser Postfix, Exim, CloudMark également, qui proposent des solutions au FSI qui sont un petit peu plus importantes que les petites MTA telles que Postfix et Exim. Et il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui vont arriver. Je sais qu'il y a des fournisseurs qui y travaillent. Une fois que ça c'est fait, vous allez regarder les documents, vous mettez ça en route. Et en principe, ça fonctionne exactement comme Comcast et leur encre de confiance négative. De temps à autre, il faut faire des encres négatives de DN, pour ainsi dire, des domaines à exclure parce qu'ils posent problème. Parfois, il y a des gens qui se proposent pour entretenir certaines parties des noms de domaine. Alors, n'hésitez pas à nous donner des informations s'il y a des problèmes de validation de noms de domaine. En principe, il n'y en a pas beaucoup, mais bon, on peut avoir une liste d'exceptions à entretenir. Alors, la focalisation de cette présentation, c'est surtout le DN à l'arrivée, donc les mails qui arrivent. Alors, la première chose à faire, c'est que votre MTA doit être compatible avec Start TLS. Donc, assurez-vous que votre MTA est compatible avec Start TLS. Ensuite, vos enregistrements MX doivent être signés DNSSEC. Si vous avez un problème de sécurité, l'homme du milieu va rediriger votre email où il souhaite et vous n'aurez pas de sécurité de vos mails à moins que votre propre domaine soit signé. Et ensuite, c'est encore plus intéressant parce que une fois que votre enregistrement MX est signé, si votre email est hébergé chez un fournisseur qui est autre que vous-même et qui s'occupe de votre serveur mail, à ce moment-là, vous n'avez plus rien à faire. C'est à lui d'implémenter tout le reste d'INEN. Donc, les enregistrements TLS ça, sont chez cet hébergeur, cet hôte MX. Donc, si vous gérez beaucoup de domaines, eh bien, vous n'avez qu'à signer vos domaines et la gestion des mails, tout ce qui est relatif à la sécurité est fait par votre fournisseur externe. Par contre, si c'est vous qui gérez vos mails, vous êtes fournisseur et donc vous agissez de cette manière comme si vous étiez un fournisseur. Alors, le fournisseur publie deux types d'enregistrement TLSA. La certification définit 44 et donc 22 qui sont mauvais. Donc, il y en a deux qui sont dignes d'être publiés. Premièrement, le 311. C'est un certificat qui s'appelle le DIN-EE. Donc, en fait, c'est le serveur End Identity, entité finale. Avec publication de la clé publique, donc vous dites, oui, mon serveur aura une clé publique précise. L'alternative, c'est de dire, alors, je ne suis pas sûr quel est le certificat que mon serveur aura, mais j'ai une encre de confiance, donc je vais publier le SHA-256H, la clé publique, pour celui qui émettra mon certificat. Et vous pouvez aussi publier les deux. Donc, l'enregistrement TLSA, c'est donc 3-1-1 ou 2-1-1, ou alors, si vous ne m'écoutez pas, vous faites autre chose et vous vous trompez. Alors, le reste des enregistrements, c'est la valeur H. Donc, c'est là que vous dites quelle est votre clé publique, le reste de l'enregistrement. Donc, vous regardez le bas de la diapositive OC72, ça commence par ça, et ensuite, on termine par D3, D6. Peut-être que ça a changé, je ne sais pas. C'était la dernière fois, quand j'ai vu, c'était ça. Alors, ensuite, comment gère-t-on les enregistrements TLSA? Ce qu'il faut faire, c'est que les enregistrements TLSA soient dans le DNS avant que la chaîne de certificat soit déployée. Donc, en fait, il y a beaucoup de cache dans le TLSA entre le résolveur et les serveurs et aussi entre les serveurs faisant autorité. Il y a cache avec les serveurs esclaves et la zone maître. Et il y a, en fait, un gros retard entre le moment où vous faites votre modification, votre mise à jour, et le moment où les clients commencent à voir ceci par rapport à ce que vous aviez avant. Et donc, l'enregistrement TLSA qui dit « j'ai tel certificat » doit être en place pendant un certain temps pour que le certificat soit activé. Et au moment de l'activation, les clients verront ce certificat, ils regarderont l'enregistrement TLSA, ils verront donc quelque chose de relativement récent et ils diront « ah, c'est bon, le certificat est bon ». Alors, malheureusement, nous n'avons pas de problème. Nous avons le problème de synchronisation. C'est impossible, étant donné le cache DNS. Nous pouvons publier plusieurs enregistrements TLSA. Certains fonctionnent maintenant, certains fonctionneront à l'avenir. Et en fait, on n'a pas besoin d'avoir une correspondance exacte de tous les TLSA. Il suffit uniquement d'une seule correspondance de TLSA. Donc, on publie les clés très à l'avance. On s'assure que au moins un des enregistrements TLSA correspond soit à la clé actuelle, soit à la clé qui va bientôt être actuelle. Alors, il y a deux choses. Je recommande la première. Vous publiez deux enregistrements TLSA qui, tous les deux, correspondent à la clé publique. Un, la clé actuelle, et l'autre, la clé suivante qui arrivera lorsque vous roulerez votre certificat. L'autre modèle que je recommande, c'est de publier deux clés, une pour votre serveur et l'autre pour le CA EMI. Alors, actuel et avenir. Donc, une clé maintenant, une clé à l'avenir. Alors, que fait-on pour ne pas perdre la tête dans tout ça? Donc, la rotation des clés, elle se fait à peu près tous les 90 jours, mais il n'est pas bon de devoir passer par différentes étapes dans l'ordre 3-4 fois pendant les 90 jours, se souvenir de tout ce qu'il faut faire, etc., attendre et passer à la suite. Non, il faut avoir un seul cycle de modification en 90 jours. Pour simplifier, vous générez la prochaine clé le jour même où vous déployez la clé actuelle. Donc, admettons qu'on est au jour zéro, j'ai déployé la clé actuelle, mais j'ai également généré la clé que je vais utiliser dans 90 jours. Donc, ma clé privée, je la garde hors ligne, mais tant que je peux avoir la valeur de la clé publique, eh bien, je peux déployer à la fois la chaîne de nouveaux certificats et publier l'enregistrement de TLSA avec la clé que j'aurai dans 90 jours. Donc, sur la diapositive, vous voyez deux enregistrements de TLSA avec la clé actuelle que j'ai mise en route et ensuite la clé suivante. Après, au bout de plusieurs semaines, mois, années, et d'ailleurs, je vous recommande de le faire souvent parce que c'est plus pratique de débugger plutôt que de faire ça tous les 3 à 5 ans parce qu'alors là, vous ne saurez pas si vous faites une erreur. Donc, lorsque le moment est venu de faire la maintenance, vous obtenez un certificat de la clé pré-générée et c'est facile. Vous savez, vous signez un CSR, c'est facile à faire. Vous obtenez un nouveau certificat, CA. Mais avant même de penser à obtenir un certificat et de le déployer, assurez-vous que l'enregistrement TLSA correspond à la clé qui est en place. En principe, ça devrait être bon depuis longtemps. Et cette vérification vous permettra de ne pas avoir de problème. Vous ne déploierez jamais de certificat sans enregistrement TLSA déjà là depuis longtemps. Une fois que vous l'aurez fait, vous déployez votre certificat et vous revenez à la première étape pour générer la clé suivante. Et avec ce type de processus, vous vous assurez de ne pas être sous pression à la dernière minute parce que vous avez déjà fait le travail. Donc, ça fonctionne très bien et ça fonctionne même avec le chiffrement. Donc, voilà, ça, c'était le premier modèle. Deuxième modèle, au lieu d'avoir la clé actuelle pour le serveur et la clé suivante, vous avez la clé actuelle et la clé actuelle pour votre CA. Donc, selon ce modèle, on publie les deux. Et s'il y en a un qui vérifie, ça, c'est bon, ça suffit. Et quand le moment est venu de faire le roulement, tant que le CA reste le même, eh bien, vous pouvez utiliser une nouvelle clé qui ne correspond pas nécessairement au 3-1-1. Ça continuera de fonctionner parce que vous êtes avec le même CA. Et ensuite, vous vous assurez que l'enregistrement 2-1-1 correspond. Une fois que tout fonctionne, vous pouvez donc passer à l'enregistrement 3-1-1 après avoir déployé le certificat. Donc, si vous... Ce modèle, en fait, vous permet, si vous êtes toujours un petit peu en retard, si vous déployez les choses à la dernière minute, de mettre à jour l'enregistrement 3-1-1. Par contre, si à un moment ou à un autre, votre CA décide d'utiliser un nouveau certificat, une nouvelle clé publique, eh bien, à ce moment-là, uniquement vous assurez d'avoir obtenu du nouveau CA, de la nouvelle clé publique, un certificat avec la même clé que celle que vous avez utilisée avant. Donc, vous entretenez cette continuité. Donc, le T211 changera, mais le 311 sera le même. Donc, en fait, vous sautez de l'un à l'autre. Donc, vous en gardez un et vous changez l'autre. Tant que vous avez une certaine discipline dans tout ceci, le processus est relativement simple. Bien sûr, tout processus que vous faites régulièrement est sujet à l'erreur humaine. Si vous lisez différents enregistrements, donc si par exemple vous êtes fournisseur de services, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui automatise le système. Il ne faut pas que ce soit fait manuellement. Malheureusement, je ne peux pas vous dire comment déployer le certificat parce que, vous savez, le stockage, le déploiement dépend des cas. Et différents serveurs faisant autorité ont différents mécanismes d'intégration des données. Et donc, je parlerai peut-être des scripts à un moment ou à un autre, mais pour l'instant, l'automatisation, c'est un petit peu quelque chose qui dépend des différents sites pour l'instant. Si vous déployez les enregistrements DLSA, TLSA et le DEN, donc... Il faut que vous ayez des coordonnées qui fonctionnent dans le WHOIS, SOA, Postmaster. De temps à autre, les gens pourront vous envoyer des mails et vous contacteront par rapport à ça. Et de temps à autre, j'ai eu du mal pour trouver les bonnes coordonnées pour les personnes.
Monitor.
Surveillance. Comment surveiller le DEIN? Je le fais actuellement, mais je ne peux pas surveiller les systèmes au niveau mondial. Donc, c'est à vous de surveiller vos propres DEIN et vous assurer qu'ils fonctionnent correctement. Voilà les meilleures pratiques, une liste de meilleures pratiques pour DEIN. Ne pas utiliser Stateless au même temps. Voyez, toutes les meilleures pratiques. Comment déployer DEIN? Il y a des logiciels, CloudMark, Exim. Si vous le faites vous, pour vous, je recommande Mail in a Box. Il vous donne tout un kit que vous pouvez utiliser pour intégrer toutes les fonctionnalités. Vous pouvez déléguer. Il y a tous les exemples qu'il vous faut. Et tous les détails y sont inclus, antivirus, etc. C'est un excellent logiciel. Si vous êtes un développeur, vous pouvez utiliser OpenSSL pour utiliser également les bibliothèques de vérification. Si vous utilisez GNU TLS, vous pouvez le faire, mais il y a certaines mises en garde, donc je le recommande pas forcément. Contactez-moi si vous voulez développer quelque chose qui utilise TLS. Et si vous êtes responsable de la maintenance ou que vous allez écrire des logiciels liés à DEIN, également contactez-moi. Voilà une liste d'outils DEIN. Vous avez les sites où vous pouvez tester votre propre domaine, des listes d'utilisateurs où l'on publie des statistiques mensuelles. Vous voyez, donc vous pouvez cliquer sur ces liens. Vous avez différentes informations. Il y a un validateur que vous pouvez utiliser pour tester votre propre DEIN. Ou bien, vous pouvez le faire vous-même avec un script partagé. J'en ai un exemple à vous donner si cela vous intéresse. J'ai 2 minutes pour vous parler de mon enquête. J'ai lancé une enquête qui couvre certains domaines qui utilisent des DEIN. 240 millions de domaines sont actuellement signés. 5,2 millions de domaines sont signés d'NSSEC actuellement. 178 000 domaines ont DEIN SMTP. Voyez donc les pourcentages de gens qui peuvent avoir des problèmes, et ce pourcentage est assez faible. Je n'ai pas encore réussi à parler avec eux, mais vous voyez ici la croissance dans l'adoption de DEIN au fil du temps. Nous avons beaucoup d'organisations qui adoptent cette solution et c'est une croissance qui se poursuit de manière soutenue. Voilà quelques domaines. Comcast figure sur cette liste. Vous voyez qu'il y a toute une liste de domaines qui ont adopté DEIN, torchproject.org, etc. Bien sûr, il y en a plus, mais voilà ceux qui l'utilisent de manière permanente. Ici, vous voyez des fournisseurs qui hébergent des domaines qui appliquent DEIN. Mais le l'hôte du mail ne déploie forcément DEIN. Vous voyez ces fournisseurs, si vous faites partie de ces fournisseurs, vous pouvez avoir une influence pour encourager l'utilisation de DEIN. Vous voyez qu'il y a un grand nombre qui sont signés déjà d'NSSEC. Il y a une grande population de domaines qui se retrouvent dans ce cas de figure. Google passe de google.com à googlemail.com. Et faire des essais pour googlemail.com devrait être assez simple. Et donc, je suis optimiste. Je pense que si on a de plus en plus de domaines qui sont hébergés sous googlemail.com, nous pourrons voir des progrès positifs. Très bien. Et ici, j'aurais besoin de votre aide. J'aimerais pouvoir surveiller plus de CCTLD qui travaillent avec des fichiers de zones partagées. J'aimerais avoir plus d'informations là-dessus. J'aimerais également que les gens puissent apporter une solution au déni d'existence, aux problèmes liés au déni d'existence. Essayer de mettre en route Dane Outbound parce que, y compris si votre domaine n'est pas signé, parce que autrement, ce problème apparaît très vite et j'aimerais bien être notifié du problème. S'il vous plaît, mettez en route DNSSEC et Dane si vous hébergez des serveurs MX. Et bien sûr, j'aimerais parler aux gens de GoDaddy qui hébergent énormément de domaines. Il y a très peu de ces domaines qui sont signés et ce serait génial si GoDaddy pouvait signer pour tous les domaines qu'il héberge. Annexe, je ne vais pas en parler. Est-ce qu'il y a des questions ou je n'ai pas le temps pour les questions? Désolée, dit Rosemary. Désolée, Victor. Merci beaucoup de cette présentation. Je pense que peut-être que les gens pourront vous poser des questions dans les couloirs si vous retrouvez. Merci beaucoup. On n'a pas le temps pour les questions. Warren, est-ce que vous pouvez nous rejoindre? Cathy a les diapos. Rosemary au micro. Très bien. Maintenant, nous aurons le panel le plus enthousiaste de la journée, si vous voulez, le plus intéressant de la journée. Je suis sûre que tous les gens de la salle sont au courant des plans de roulement de la cascade qui avaient été mis en place et qui ont été reportés. Et il y a tout un ensemble d'activités en cours à ce stade. Matt va nous faire une présentation par rapport à cela. Et ensuite, nous allons avoir une discussion avec les gens qui sont autour de la table, Jean, Warren, Jacques. Donc, Matt, vous avez la parole. Merci, Russ. Bonjour. C'est la même diapo que je vais présenter dans quelques heures dans la salle principale. Nous avons une présentation par rapport à cela. Je vais passer ce sujet en revue un peu rapidement parce que vous êtes au courant de la plupart de ces questions. Je vais donc être assez bref. Et si vous pensez qu'il y a des éléments qui manquent, n'hésitez pas à me le dire ou en m'envoyer un email. Je vais faire un récapitulatif de où nous en sommes. En septembre de l'année dernière, nous avons reporté le roulement de la KSK après avoir analysé les rapports de l'encre de confiance à partir du RFC 8145. Et après cette analyse, le département Octo de l'EICAN, nous avons identifié différents pourcentages en fonction des données, mais on a identifié qu'il y avait beaucoup de serveurs qui n'avaient pas encore la nouvelle clé. Nous ne savions pas ce qu'il fallait anticiper, mais on trouvait que les pourcentages étaient assez élevés et nous ne savions pas pourquoi on avait obtenu ces valeurs de pourcentage et nous voulions investiguer. Donc, nous avons lancé des enquêtes. Il y a une personne dans cette salle qui a fait partie de ces enquêtes. Nous avons essayé de contacter 500 résolveurs qui avaient donc l'ancienne clé en septembre 2017. On n'a pas été surpris de la difficulté que cela représentait de pouvoir contacter ces opérateurs basés sur IP. Nous avons pu contacter seulement 20% de ces serveurs et parmi ceux-ci, nous avons vu que 60% avaient des adresses avec des IP dynamiques. Et 25%, c'était des résolveurs qui transmettaient des requêtes venant d'autres résolveurs. Maintenant, nous aurions voulu trouver des causes pour pouvoir relayer des messages appropriés, mais ce n'est pas ce que nous avons découvert. Alors, nous avons décidé de parler à la communauté et de demander à la communauté des orientations par rapport aux étapes à suivre. Cela s'est passé en janvier. En décembre, on a annoncé le report et en janvier, on a demandé l'avis de la communauté par rapport aux étapes à suivre. On était d'accord sur le fait qu'il n'y avait pas moyen de mesurer les chiffres de manière exacte. Ce que l'équipe qui avait conçu le RFC il y a quelques années nous a conseillé de continuer à essayer de mesurer, parce que finalement, les utilisateurs pourraient être affectés. Et toutes ces discussions nous a amené à la conclusion de savoir qu'il se serait difficile de mesurer avec exactitude en ce moment. Alors, le consensus, par consensus, il a été décidé que l'ICANN devrait donc rouler la clé KSK. En février 2018, on a publié un projet préliminaire. J'insiste, c'était un projet préliminaire pour que le roulement de la clé ait lieu le 11 octobre 2018. Il n'y avait pas des critères de mesure explicites découlant de cette discussion avec la communauté, mais nous allons publier des données concernant le RFC 8145 de manière périodique pour voir comment ça évolue. Il y a eu une période de commentaires publics ouverte. On a encore le temps de faire des commentaires. Elle va fermer le 2 avril 2018 et j'encourage tout le monde à y participer car la façon dont nous allons procéder dépend des résultats de la consultation publique. Voilà une réponse. Un récapitulatif pour savoir où nous en sommes. En mai-avril, nous allons publier le rapport du personnel sur consultation publique. Si on garde la date d'octobre, nous allons procéder comme l'a indiqué la diapo que je vous ai montrée. Nous allons avoir un atelier en septembre où le conseil d'administration va demander au ESSAC et au RSSAC de commenter le plan. Nous allons reprendre cette question au Panama et j'espère que nous allons pouvoir obtenir donc des réactions du ESSAC et du ESSAC pour savoir si nous allons donc poursuivre avec la décision du conseil d'administration. Il y a des ateliers donc du conseil d'administration à chaque réunion de l'ICANN. Donc, il y aura cet atelier du conseil d'administration en septembre et on va demander au conseil d'administration d'approuver une résolution pour autoriser ICANN.org à rouler la clé. Maintenant, je vais passer aux données. Nous avons petit à petit ajouté des données du RFC 8145 que nous obtenons des différents serveurs. Cette diapo vous montre les derniers développements. Nous avons des données venant de 12, je crois, serveurs. Il y en a un qui ne participe pas et nous obtenons des statistiques à partir de DNSCAP. On fait marcher DNSCAP tous les 60 secondes à travers une requête DNS. Et nous obtenons ces informations que nous collectons. Voilà mon schéma ici dans ce graphique qui est un peu difficile à lire peut-être. Vous voyez la ligne rouge et verte, c'est le nombre d'adresses IP uniques sources par jour dont nous obtenons des rapports. Et la ligne verte est le nombre total de sources Vous voyez que nous avons 15 000 sources par jour. Et vous voyez donc que le résultat, c'est la ligne noire qui nous donne le pourcentage. Vous voyez qu'on est à hauteur de 20%, ce qui représente l'amélioration par rapport aux données que nous avions obtenues au départ. Mais à un moment donné, il faut arrêter de faire des diapos et commencer à faire des présentations aux réunions de l'ICANN. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà un petit peu d'informations. Nous sommes sûrs que les gens ont mis à jour, ont appliqué la mise à jour parce qu'il y avait des problèmes de sécurité. Il n'y a pas eu de drop-off après 30 jours parce qu'on voit encore qu'il y a des serveurs qui ont la clé, l'ancienne clé, après 30 jours. Je pense qu'on est face à des serveurs qui ne fonctionnent pas suffisamment longtemps pour pouvoir obtenir ces informations. Vous voyez ici donc des données qui viennent différents serveurs racines. À l'exception du serveur G, nous n'obtenons pas de données des serveurs G. Ici, vous avez les IP uniques qui sont ajoutées par jour. Voilà combien de IP uniques que nous n'avons pas vu auparavant s'ajoutent au jour le jour. Nous voyons de plus en plus ce type de nouvelles adresses IP qui s'ajoutent. On peut imaginer que cela va nous amener à une situation plus stable. Que ce soit un conteneur ou non, on peut imaginer qu'on peut avoir tout type d'adresse IP qui peut nous expliquer pourquoi nous obtenons ce nombre d'adresses IP uniques par jour. Ici, vous voyez les sources uniques au fil du temps. La ligne verte montre les sources uniques au fil du temps qui ont rapporté le RFC. Et si vous suivez vers la droite, il y a le nombre d'adresses uniques depuis que nous avons commencé à collecter des informations. Ces IP ont donc rapporté des informations à partir du RFC. Et ces pourcentages est encore pire. Vous voyez donc les adresses uniques tous les 24 secondes. Le cumul au fil du temps et vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre le nombre de sources que nous avons eues dans notre rapport. Autrement dit, je vais dire ça autrement. Il y a peu d'évidence d'une mise à jour qui soit mise en place vers la nouvelle clé. Vous pouvez voir ces graphiques qui sont publiés toutes les semaines. Si vous cliquez sur le lien, vous allez voir. Et c'est ma dernière diapo. Je peux publier la liste actuelle. J'ai l'autorisation de l'ICANN pour le faire. Ce sera similaire à ce que vous voyez sur l'écran. Vous voyez les différentes fréquences et le nombre de sources que nous recevons, le pays, etc. Donc, il y a la possibilité pour nous de contacter certaines de ces sources. Nous avons un peu de temps avant de lancer le roulement. Très bien. Je vais m'arrêter là pour que l'on puisse avoir suffisamment de temps d'échanger ou de débattre. Merci beaucoup, dit Rasmundi. Merci, Matt, pour cette présentation. Est-ce qu'il y a d'autres membres du panel? Pardon, il y a d'autres membres dans ce panel. Nous voulons avoir d'autres perspectives. Jacques Latour va nous en parler du point de vue des TLD. Jean Latour, les TLD dans notre pays sont une source d'inquiétude. J'ai suivi de près cette question. Et comme j'ai dit pendant mon commentaire, c'est qu'il est virtuellement impossible de mesurer cela. Il est virtuellement impossible de tracer une ligne sans qu'il y ait des dommages collatéraux. Si nous voulons vraiment maintenir cette confiance perçue vis-à-vis de la racine, il faut le faire de manière prudente. Parce que s'il y a une panne, les gens vont pouvoir le résoudre facilement. Il ne va pas se passer des mois ou des semaines pour que l'on puisse résoudre cela. La façon de résoudre est assez facile. Mais à mon avis, plus on retardera cela, plus on passera du temps à analyser ce processus, plus l'impact sera grand. Tous les processus pour créer cela sont impeccables. Cérémonie de signature, etc. Donc, si on reporte davantage cela, finalement, ça va aller à l'encontre de la confiance que les gens ont dans le système. Nous devrions rouler la clé l'année prochaine. Ça devrait être roulé tous les ans. Et donc, si un jour, il nous faut faire un roulement de clé d'urgence, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de risque. Ensuite, on peut utiliser DAIN dans les grandes entreprises et c'est le CE central. Tout cela dépend de la clé que nous voulons construire. Alors, je pense qu'il faut le faire et faire avec. Et éventuellement dire, voilà la façon de résoudre le problème s'il y en a un. Si quelqu'un va dans le DNS, il faut qu'il puisse trouver aussi la solution. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais si l'on attend davantage, ce n'aura pas des conséquences positives.
Grâce au micro. Merci, Jacques. Alors maintenant, Joe, on va avoir la perspective plus large d'une grande... La grande FSI. Joe au micro. Je suis d'accord. Par rapport à cette question, on pourrait faire ça tous les ans parce que dans une grande entreprise, on pourrait avoir des gros problèmes. Nous ne voulons pas éteindre la validation DNSSEC. Et lorsque le premier roulement de clé a été fait, on a validé, on a testé pendant des mois pour s'assurer qu'on était conforme à 51, peut-être qu'on n'utilise pas le 51 et qu'on se repose surtout sur le résolveur. Mais s'il y a un problème, on était là. S'il y avait eu un problème, on aurait été là. Donc, si on a l'automatisation avec un roulement tous les ans et si le processus s'améliore au fil du temps, eh bien, cela veut dire qu'il y a moins de charges de travail sur les opérateurs. Mais la clé de la réussite, à mon avis, dans tout ceci, c'est de tester et de continuer de tester et aussi de s'assurer que tout est à jour. En tout cas, c'est ce que je suggère. Voilà son micro. Merci, Joe. Et maintenant, on va écouter Warren du point de vue d'un grand résolveur public que nous connaissons tous. Warren, au micro. Oui, bonjour, je représente Google. Je n'ai pas énormément de choses à ajouter là-dessus, mais il est clair que nous avons un logiciel custom. Nous n'utilisons pas le RFC 5011 parce que c'est très complexe. C'est bien pour les systèmes automatisés, mais nous, ce que nous utilisons, c'est en fait une équipe nombreuse. Lorsqu'il y a publication, on vérifie, on importe manuellement dans un cluster Canary et ensuite, on fait le roulement de clés manuellement. Il y a un certain nombre d'entre nous qui avons discuté, pas à Google, mais ici, qui avons discuté du RFC 5011 et du roulement de clés, et à savoir si c'était adapté. Peut-être qu'il y aurait une meilleure solution, je ne sais pas. Mais je ne vais pas ajouter de commentaires. J'ai simplement des questions pour Matt, mais ce sera pour tout à l'heure, quand on passera à la partie questions-réponses. Voilà son micro. Merci, Warren. Jo, Jacques, également, merci. Matt aussi. Et maintenant, c'est justement le moment de poser vos questions. Et puisque Warren a le micro et qu'il a une question, je vais lui passer la parole. N'hésitez pas à lever la main si vous avez une question. Alors, Warren au micro. On va retourner en arrière, s'il vous plaît, sur les diapositives. Alors, je ne sais pas si je comprends, peut-être que j'ai mal compris, mais donc l'idée de base, c'était qu'il y avait une mise à niveau de l'outbound, du unbound, pardon. Mais je ne vois pas pourquoi vous avez toutes ces sources uniques. Vous êtes passé du RFC 8145 qui n'était pas fait et qui maintenant est fait. Grâce au micro. Pardon, Peter. Peter Kortenik. Je suis désolée d'être derrière vous, mais j'ai quelques questions. Tout d'abord, j'ai une remarque pour Matt, parce qu'il y a des rumeurs cette semaine. Comme quoi, alors je voudrais savoir ce qui pourrait se passer si le roulement était repoussé. Est-ce que vous pourriez clarifier si on reportait encore le roulement de clés, est-ce que l'Internet s'arrêterait? J'espère que non. Je ne pense pas que retarder le roulement arrêterait l'Internet. Il n'y a rien qui s'arrêtera. Je voulais juste clarifier, parce qu'il y a des personnes qui ont l'impression que le roulement était urgent, qu'il fallait absolument qu'il se passe. J'aimerais que ce soit enregistré, que ce soit tous au clair là-dessus. Il est tout à fait possible que les commentaires de la communauté insistent pour qu'on arrête le processus jusqu'à ce qu'il y ait davantage de développement, qu'on revoie le plan à ce moment-là et qu'on repousse encore. C'est tout à fait possible. Alors, je crois que la grosse préoccupation, le gros souci, c'est que lorsque la clé a été signée au début, on s'est dit le roulement sera au bout de 5 ans. Et puis pour diverses raisons, la transition, NTIA, etc., on a dû reporter ceci. Donc le risque principal, c'est en fait la perte de confiance dans le roulement de clé avec le temps. Et donc je crois que la question à se poser, c'est de savoir est-ce que c'est plus risqué pour nous de rouler et peut-être de voir certaines interruptions ou alors de ne pas rouler. Et puis, les gens vont commencer à se dire ça commence à sentir mauvais. Et donc, c'est pour ça que la période de consultation publique est ouverte. Et donc, il faut absolument que les gens fassent des commentaires, encouragez-les, c'est important. Joanne Lee au micro. Alors, quelques commentaires que j'ai entendus. Il ne faut pas faire d'erreur sur cette équation du risque. Est-ce qu'on roule la clé parce que c'est risqué? Attention, parce que ne pas la rouler, c'est également risqué. Dans tout système, la possibilité de remplacer une clé va de pair avec les précautions en matière de sécurité physique. La sécurité physique n'est jamais parfaite. Il n'y a pas, c'est pas noir et blanc. Il faut toujours évaluer. Il y a toujours des zones grises. Donc, l'équilibre des risques, avec ce manque d'expérience par rapport au roulement de la clé, qui est une clé importante, je crois que c'est un risque assez mineur. Je pense qu'il y aura peut-être de brèves interruptions sur des réseaux mineurs, mais après, il y aura réparation assez rapidement. Donc, je crois que le risque de ne pas rouler la clé, c'est qu'on ne saura pas faire. Et si on est forcé de le faire, ça va vraiment être la pagaille. Nouvel intervenant. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Joe, mais quand même, s'il faut rouler la clé en situation d'urgence, le processus est totalement différent de celui qui a été décrit. Si on est pressé, c'est peut-être parce qu'on a manqué de confiance dans la clé. Dans ce cas-là, on ne peut pas utiliser le 50-11 parce qu'on ne peut pas faire confiance au 50-11. Donc, à la base, l'espoir, c'était de publier le DIRS et ensuite de rouler la clé pour tester. Et ensuite, tous les deux ans, passer à un autre test de la clé. Mais pour diverses raisons, on n'a pas pu le faire. Donc oui, effectivement, le premier roulement, ça va être compliqué. Et le pauvre Peter est responsable de tout ça. Par rapport aux partenaires de gestion qui s'en sont occupés en 2010, l'intention n'a jamais été de rouler comme vous venez de le décrire. Il y a des gens dans la communauté qui ont poussé pour qu'on fasse différents roulements, mais ça n'a jamais été le cas au début. Le DPA dit que la pratique dit pour le KSK qu'au bout de 5 ans, mais pas 5 ans et après 6 ans et 7 ans. Matt, est-ce que vous pouvez passer à la liste des DS? Donc, en haut, 41 462 sources, 5, 5, 8, 3, 6. Donc, le nombre de visibilité à ce niveau-là, de validation des NSX, c'est pratiquement zéro. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Ce qui nous arrive de RFC 8045 est vraiment tordu. Et nous ne comprenons pas tout. En septembre de l'année dernière, on s'est dit, bon, on ne comprend pas. Mais d'une certaine manière, ce n'est pas l'appétit pour le risque qui a changé. La confiance dans le signal RFC 8045 s'érode. Et ça, ce sont des données qui ne représentent pas les résolveurs validants. Et si vous ne validez pas, eh ben, peu importe le roulement de clé. Les résolveurs validants qui regardent les publicités Google voient ceci. Oui, dans mon cas, c'est ce que j'utilise. Mais vous avez dit que cela reflète l'environnement large. Et s'il y a un ensemble de validations qui ne voient pas, c'est d'autant plus étrange et inexplicable. Donc, d'une certaine manière, ce que je vous dis, c'est pas que notre appétit pour le risque a changé, mais que notre confiance dans le signal RFC 8045 commence à s'éroder de plus en plus. Et ça fait 7 ans qu'on travaille à ce roulement de clé. On pourrait passer encore 7 ans là-dessus, mais de toute évidence, je ne vois vraiment pas pourquoi. Parce qu'à un moment ou à un autre, on va avoir un événement qui provoquera le roulement. Ce sera le premier roulement. On n'aura pas prévu pour ce genre de situation et on va avoir d'énormes problèmes. Moi, je vous encourage vraiment, et c'est un feedback que je vous fais, de faire le roulement tel que vous l'avez prévu. Et je vous encourage aussi, parce que ça, c'est la conversation suivante, de le faire de manière régulière. Et s'il n'y a pas de régularité qui a été mise en place, je pense que 12 mois, c'est peut-être bien. En tout cas, je vous encourage vivement à rouler cette année et à continuer de le faire tous les octobres. Chaque année en octobre. Peter, question suivante. La première question, c'était les autres qui étaient perdus. Là, c'est moi qui suis perdue. Les gens disent qu'il faut qu'il y ait des règles régulières et un des avantages, c'est donc que cela aiderait d'avoir un mécanisme en place pour le roulement de clés au cas où on ait besoin d'un roulement en urgence. Mais si ce que je comprends bien, le 50-11 est incompatible avec le roulement en urgence. Je vois que vous hochez de la tête, personne ne vous entend. Je crois que nous sommes tous d'accord. Warren et moi, on a commencé à réfléchir à ça par rapport au 50-11. Il faut faire quelque chose. Pour les roulements réguliers, il faut une autre explication? Il faut remplacer le 50-11. Mais c'est deux questions différentes. Si il faut en parler aux opérateurs de résolveurs qui ne sont pas dans la salle et qui ne passent pas toute la journée à y travailler, quel est l'objectif du roulement régulier? Parce que pour se préparer en cas d'urgence, en fait, ce n'est pas ce qui motive le travail, là. Matt au micro. Alors, petit déni de responsabilité, je ne fais pas partie de la PTI, je fais partie du bureau technologie. Alors, à long terme, tous, on pourra s'aventurer et dire qu'à l'ICANN, on a un autre système, on n'est pas obligé de compter sur la méthodologie actuelle avec le calendrier de roulement régulier. Moi, j'aimerais avoir des clés de stand-by dans l'APEX et donc les clés actuelles. Tout ce qu'on peut faire pour générer une autre clé avec l'infrastructure qu'on a actuellement veut dire qu'il y aura partage avec la clé actuelle. Donc, n'importe quel scénario, s'il y a compromission, on compromet les autres clés. Donc, il faut trouver d'autres clés dans l'ensemble de clés pour pouvoir, ce serait un petit peu le luxe, mais rouler sans problème quand on veut. Alors, le 51 a des problèmes en termes de taille de l'ensemble de clés APEX. Donc, je crois qu'il y a plusieurs choses à faire. Il y a le protocole et puis il y a l'opérationnel. Mais je crois qu'il y a moyen d'avoir des roulements réguliers, d'avoir également un plan en cas d'urgence et de faciliter le travail. Nouvel intervenant, Frédérico Nevis du point BR, NIC.BR. Très bien, Matt, merci pour cette présentation. Je suis d'accord avec vous, en dehors du fait que j'ai déjà fait un commentaire sur l'enregistrement public. Donc, si je vais dans le sens de ce que vous avez dit, l'idée d'avoir des clés de rechange publiques, il faut qu'on pense à un roulement d'algorithmes parce qu'on a des clés de rechange et l'algorithme actuel, avec la taille des clés qu'on utilise actuellement, fait qu'il faut y réfléchir, utiliser la technologie actuelle, donc, avec ces clés publiques. Plus petites. Alors, j'aimerais répondre à la question de Peter. Il y a deux types de roulement de clés en urgence. Il y a le roulement de clés où quelqu'un publie accidentellement la clé sur le New York Times. Alors là, panique générale. Et là, le 51 ne fonctionne pas. Il y a un autre roulement de clés en urgence où il devient de plus en plus clair que ce que vous utilisez n'est pas aussi solide que vous ne le pensiez. Certaines personnes vont dire, oui, c'est ce qui se passe pour le chat 1, par exemple. Vous les relayez. Donc, peut-être, je ne sais pas, quelques semaines, quelques mois. Donc, suivant votre niveau d'urgence, le 51 peut marcher ou non. Ensuite, commentaire suivant. On a parlé d'un autre système pour les roulements de clés, donc s'éloigner du RFC 51. Pour ça, on pourrait avoir des clés en stand-by qui ne seraient pas publiées à l'APEX. On pourrait publier des clés en plus, comme enregistrement, mais sans signer, en fait, quoi que ce soit. Donc, pas dans l'ensemble de clés DNSSEC, mais ce sera en fait un enregistrement en plus. Vous vous dites, j'ai 7 clés, voici la liste. Allez voir les deux noms qui pointent vers la clé publique. Comme ça, on pourrait faire un roulement. Mais de toute façon, il faudrait faire ce roulement. Bénédicte au micro. Bonjour Matt, je suis très heureux d'être ici, de vous avoir écouté. Alors, un petit rappel. Les serveurs Shadow peuvent notifier, peuvent informer ces opérateurs de réseau. Je voulais juste le rappeler. S'ils souhaitent recevoir des alertes par rapport à ce type de problème, même si ces alertes, c'est que le résolveur fait quelque chose de bizarre plutôt que de dire qu'ils ont la clé 2010 et qu'ils sont prêts à aider. Mais il semblerait que 30 à 50% des ASN souhaitent recevoir ceci. Matt au micro. Ah, merci, c'est une très bonne idée. Je sais qu'on a échangé des emails avec les serveurs Shadow. Alors, je n'ai pas mis ceci sur la diapositive, mais autre tactique, c'est d'aller dans l'autre sens, de trouver ceux qui en font beaucoup, et nous avons de bonnes données d'APNIC là-dessus, et de commencer par le haut et de vérifier que les personnes qui ont beaucoup d'observateurs qui soient prêts et qui ne font pas la DNSSEC, de manière à cocher et à se dire, bon, on ne sait pas qui n'est pas prêt, mais on sait qui est prêt. Et ceux qui sont prêts, c'est un pourcentage que l'on peut utiliser. Donc, si vous voulez bien nous aider avec ça, c'est bien. Grâce au micro. Je pense que nous n'avons pratiquement plus de temps, à moins qu'il y ait une dernière question vraiment qui vous brûle les lèvres. Allez-y. Je suis boursier à ICANN et j'ai quelques questions de base. Quel est le rôle des anciennes clés dans le roulement? Est-ce qu'elles servent à valider les anciennes clés? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe s'il y en a une qui est compromise? Et si c'est le cas, encore une fois, quelle est l'atténuation des risques? Quel est le plan? Nouvel intervenant. Alors, le protocole actuel, donc le RFC 5011, c'est que donc l'ancienne clé signe la nouvelle clé. Donc si vous faites confiance à l'ancienne clé, vous pouvez faire confiance à la nouvelle clé. Et après, vous dites, vous pouvez oublier l'ancienne clé. Donc l'ancienne clé, vous ne lui faites plus confiance après. Mais si l'ancienne clé est compromise ou si vous perdez foi en cette clé, vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc il y a un autre processus et je ne suis pas sûre si c'est quelque chose qui est très connu, très public. C'est donc de savoir s'il y a compromission et s'il y a des preuves de cette compromission de l'ancienne clé. Il peut y avoir peut-être une séance d'urgence pour générer de nouveaux KSK, etc. Mais la distribution de cette clé, la publication de cette clé, comment savoir si on peut faire confiance. Donc ça, si c'est signé par un CA, je ne sais pas si c'est une bonne réponse, en fait. Donc il faut qu'il y ait une bonne documentation, un processus de test pour savoir si la clé a effectivement été compromise et donc pour savoir qu'est-ce qu'on fait. Ceci étant, je pense que nous allons maintenant clore la séance et quitter la salle. Mais je souhaitais vraiment remercier Matt Larson, Joe Crow, Jacques Latour et Warren pour leur participation à ce panel. Et en particulier, nous devons remercier Cathy Schnitt qui a organisé cette séance toute seule. En principe, il y a toujours deux autres personnes, mais vous avez fait un excellent travail, Cathy. Donc, merci pour cette organisation excellente. Voilà. Notre programme sera réorganisé à l'ICANN 62. Dans un mois ou deux, nous enverrons des requêtes pour des présentations. Donc, n'hésitez pas à réfléchir à vos idées pour la suite. Et j'espère qu'on se retrouvera donc dans quelques mois au prochain atelier. Merci.